bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. 46 millions de Français sous couvre-feu à partir de demain et déjà 1 million de contaminations comptabilisées. Pour faire face à la progression de Covid-19, le gouvernement durcit les mesures dans certains départements. Le monde de la culture sera aidé financièrement en retour. Dans ce journal, nous entendrons la satisfaction de la Fédération nationale des cinémas. Direction ensuite les États-Unis où se déroulait cette nuit le dernier débat avant la présidentielle. Joe Biden et Donald Trump se sont restés courtois, évoquant les sujets désormais habituels, Covid-19, économie et accusations de corruption. Et puis vous entendrez de jeunes Libanais qui fuient leur pays et la crise économique, prenant tous les dangers en voulant traverser la mer Méditerranée. Il s'explique au micro de notre correspondante. Comment pourrait évoluer l'évolution de Covid-19 dans les prochaines semaines? Faut-il s'attendre à ce que les mesures de restriction perturbent les fêtes de fin d'année? Olivier Véran a tenté de répondre à ces questions au cours d'un point presse hebdomadaire. Il le tenait hier, depuis le ministère de la Santé, aux côtés du Premier ministre. Olivier Véran a dit espérer que le couvre-feu étendu à 54 départements produise des effets le plus vite possible. Mais il a tout de même annoncé une inévitable aggravation de la situation sanitaire.
C'est hélas une évidence, une certitude. Le nombre de formes graves, le nombre d'hospitalisations, le nombre d'admissions en réanimation et le nombre de décès va forcément augmenter dans les semaines qui vont venir. Parce que ce n'est que le reflet des malades qui sont diagnostiqués actuellement. Un malade qui se contamine va développer des symptômes 4 à 5 jours après. Et les formes graves apparaissent entre 8, 10, voire 15 jours après la contamination. Ainsi, quand vous avez une incidence comme celle que nous avons en France ou en Europe chez des personnes dites fragiles, vulnérables de fait de leur âge, eh bien, on le sait, hélas, qu'un certain nombre d'entre elles iront nécessairement à l'hôpital et en réanimation. Donc il est, sur cette base-là, difficile de vous dire quand aura lieu le pic. Finalement, le pic, il aura lieu, ce sera le moment où on aura enregistré l'inflexion de la courbe d'incidence et on commencera à réduire le nombre de cas. Moi, si vous voulez ma réponse idéale, ce serait la semaine prochaine. Ça voudrait dire que les mesures auraient permis d'infléchir la courbe. Je n'en suis pas certain, en tout cas pas dans les proportions nécessaires pour avoir vraiment une diminution franche. Ce que nous voulons, c'est déjà des premiers frémissements d'une réduction de l'incidence au cours de la semaine prochaine. Quant aux prédictions à Noël, c'est comme, je vous fais la même réponse qu'à chaque fois quand on parle de prédictions, tous ceux qui en ont fait s'en sont plantés.
Olivier Véran, qui a donc annoncé un couvre-feu ainsi que la fermeture des bars dans 38 départements supplémentaires, ce qui en fait 54 au total, plus la Polynésie. 46 millions de Français sont concernés. Parallèlement, une enveloppe de 115 millions d'euros va être débloquée pour le secteur de la culture. L'annonce a été faite dans la foulée par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Cette enveloppe se scinde en deux parties. 85 millions pour le spectacle vivant et 30 millions pour le cinéma. Richard Patry est le président de la Fédération nationale des cinémas. Ces annonces, dit-il, vont soulager les distributeurs de films et donc par ricochet les salles de cinéma.
Il ne s'agit pas de se réjouir de ce genre de choses, mais au moins tout est fait pour que les salles de cinéma puissent continuer à montrer des films, puisque la partie la plus importante de ce plan, c'est d'aider les distributeurs et d'aider les producteurs français à maintenir leurs films à l'affiche, et c'est le plus important pour nous. Donc voilà, ça va surtout favoriser le cinéma français qui en a bien besoin, mais qui a une carte à jouer. Voilà, il n'y a plus de concurrence du cinéma américain sur les écrans, et bien que les films français restent à l'affiche, reviennent même pour ceux qui l'ont déserté. Les règles sanitaires sont en place, elles sont strictement respectées et nos concitoyens peuvent venir en fonction des départements dans lesquels ils vivent, soit le soir s'il n'y a pas de couvre-feu, soit avant ce couvre-feu. Les salles de cinéma partout en France seront là pour les accueillir.
Des propos recueillis par Arnaud Rozac pour France Culture. Couvre-feu donc élargi en France. Le Pays de Galles, lui, a fait le choix d'un confinement de 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Idem pour certaines villes portugaises. Mesure prise localement aussi en Italie où ce sont les régions qui décident. La Lombardie est la première à avoir imposé cette nuit un couvre-feu, Antonino Gallofaro.
Hier soir, le parvis du Duomo, la cathédrale de Milan, était désert. À 5h ce matin, s'est achevé le premier couvre-feu en Italie. La Lombardie a décidé d'interdire à ses citoyens de sortir de chez eux de 23h à l'aube, sinon pour des raisons de santé et de travail, et ce jusqu'à la mi-novembre. Les images des rues de la capitale économique de la péninsule rappellent la quarantaine de mars dernier. La région la plus touchée en Italie par le coronavirus a donc décidé de ne prendre aucun risque. Le gouverneur a imposé des mesures plus restrictives que celles voulues par le gouvernement. Dimanche, l'exécutif permettait en effet aux maires de fermer des rues ou des quartiers entiers pour empêcher les rassemblements. Pour la Lombardie, ce n'était pas assez, comme pour d'autres régions qui lui ont emboîté le pas. Dès ce soir, couvre-feu aussi en Campanie et dans le Latium. Les Romains, donc, dès ce soir, ne pourront pas sortir de chez eux après minuit et jusqu'à 5 heures pendant les 30 prochains jours. Les mesures sont aussi nombreuses que les régions. Ainsi, la Sardaigne, par exemple, se laisse 24 à 48 heures de réflexion pour comprendre si imposer plus qu'un couvre-feu, mais bien une nouvelle quarantaine. Lundi, le Premier ministre Giuseppe Conte avait appelé les régions à une coordination nationale. Il craignait ce qui est en train de se passer précisément maintenant, une fuite en avant des autorités régionales qui prennent des mesures toujours plus restrictif.
Antonino Gallofaro. Il a évidemment été question de la pandémie de Covid-19 cette nuit aux États-Unis pour le deuxième et dernier débat télévisé avant la présidentielle dans 11 jours. Débat organisé à Nashville, dans le Tennessee. Nous retrouvons Benjamin Hilly, l'un des envoyés spéciaux de France Culture outre-Atlantique. Benjamin qui a suivi ce qui était l'un des derniers grands moments de la campagne et qui nous raconte.
Un mot hein, pour résumer, audible, un débat audible cette fois, quelques interruptions de part et d'autre, mais rien d'intempestif. Donald Trump a clairement pris sur lui, l'a baissé d'un ton, la voix parfois étonnamment douce, hein, surtout au début du débat. Joe Biden, lui, est resté fidèle à lui-même, posé, le regard braqué sur la modératrice ou la caméra. La règle des micros coupés a visiblement fonctionné, laissant aux candidats le temps de développer leurs arguments, ceux de Joe Biden, offensif au sujet de la crise sanitaire, l'épidémie et son bilan si lourd aux États-Unis.
220 000 Américains sont morts. Quiconque est responsable de ne pas avoir pris le contrôle, disant dès le départ, je n'assume aucune responsabilité. Quiconque est responsable de tous ces morts ne devrait pas rester président des États-Unis d'Amérique. C'est le même homme qui a dit que ce serait fini au printemps. C'est le même homme qui nous a dit, n'ayez crainte, ce serait terminé avec l'été. Mais qu'en est-il d'un hiver sombre ?
Donald Trump, comme toujours, assume, hein, il estime avoir parfaitement réagi face au virus. Il promet une nouvelle fois un vaccin dans les semaines à venir. Il accuse son adversaire de vouloir reconfiner le pays. Le président sortant qui, comme prévu, a attaqué aussi Joe Biden sur les affaires en Ukraine et en Chine de son fils Hunter Biden. Mise au point de Joe Biden, jamais de ma vie je n'ai pris un centime d'une source étrangère. Vous l'avez compris, des échanges vifs mais intelligibles. En fin de débat, la modératrice a même remercié les deux candidats.
Benjamin Hilly depuis New York ce matin. C'est une première au Liban, des jeunes qui par dizaines montent sur des bateaux clandestins pour tenter de rejoindre Chypre et donc l'Union européenne. Ces jeunes Libanais fuient leur pays depuis cet été, un trajet par la mer extrêmement dangereux, comme le font déjà des Syriens ou Libyens. Qu'importe, disent-ils aujourd'hui, la crise économique au Liban est trop grande pour y rester. Notre correspondante Chloé Doma est dans le district de Tripoli, dans le nord du pays, d'où partent la majorité de ces bateaux clandestins.
Tripoli, la deuxième ville du Liban, est aussi la plus pauvre. Ici, la moitié de la population est au chômage et avec la crise économique, les prix ont explosé. Dans une épicerie du centre-ville, Aboudi, 27 ans, ne sait plus quoi acheter.
Tous les jours, les prix augmentent. Ma mère m'a demandé d'acheter du fromage et des olives, mais il y en a pour 25 voire 30 euros.
Comme beaucoup de jeunes, Aboudi rêve de prendre un bateau clandestin pour Chypre, première porte de l'Europe à 160 km des côtes libanaises.
Avec mes amis, on parle tout le temps de quitter ce pays et tant pis si c'est illégal.
Pourtant, il sait que la traversée est dangereuse. En septembre, une barque a dérivé en mer pendant 8 jours avant d'être secourue par les Nations Unies. 13 passagers sont morts, dont le petit Sofiane, 2 ans. Son père, Mohamed, raconte.
Le soleil tapait très fort et on n'avait plus d'eau. Mon fils a commencé à avoir soif, il pleurait. Je lui ai donné de l'eau de mer et là il s'est mis à vomir. Il est mort devant moi et je l'ai jeté dans la mer. Je ne sais pas quoi vous dire, quand j'y pense, j'ai peur de devenir fou. Avant, je voyais les réfugiés syriens partir clandestinement en Europe. Je me demandais comment ils pouvaient faire ça. Et voilà, j'ai fait la même chose. Pour moi, ce sont les politiciens libanais qui sont responsables. Ce sont eux qui nous obligent à immigrer.
Il y a un an, des manifestations contre la classe politique avaient éclaté partout au Liban. Mais depuis, aucune réforme n'est venue améliorer le quotidien des habitants. Dégoûtés, de plus en plus de Libanais tentent de fuir leur pays par tous les moyens.
Chloé Doma pour France Culture. Six jours avant l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty près de son collège dans les Yvelines, le compte Twitter du terroriste avait été signalé à la plateforme Pharos du ministre de l'Intérieur. Les enquêteurs ignorent encore le contenu de ce message. Ils ont adressé une demande à Twitter pour en prendre connaissance. Sachez par ailleurs qu'aujourd'hui, vendredi, le Conseil français du culte musulman propose aux imams de France un texte dénonçant le radicalisme.
textes dont les imams peuvent s'inspirer ou qu'ils peuvent lire pour leur prêche aujourd'hui lors de la prière. Le temps va s'améliorer sur le nord et le nord-ouest de la France métropolitaine ce vendredi. Il sera souvent pluvieux ailleurs, avec des températures homogènes, 14 à 17 degrés en moyenne ce matin.